18h30, 19h, La Sologne, terre d'identité et de qualité, le magazine éco-innovation en Grande-Sologne sur Méga FM.
Bonsoir à tous, bienvenue dans La Sologne, terre d'identité et de qualité, le magazine éco-innovation de Méga FM en partenariat avec le syndicat mixte du pays de Grande-Sologne. Ce soir, nous revenons sur un sujet déjà abordé en avril dernier dans cette même émission, le projet Ligne à grande vitesse. Alors, petit rappel des faits, en 2011, RFF, Réseau Ferré de France, lance un projet consistant à relier Paris à Lyon par une nouvelle ligne à grande vitesse de près de 500 km passant par les régions Auvergne, Bourgogne et Centre. Alors ce projet fait partie d'un programme supplémentaire de 2500 km de ligne à grande vitesse figurant dans la loi de programmation du Grenelle de l'environnement. Alors ce projet doit répondre à des besoins comme par exemple une meilleure accessibilité des territoires du centre de la France ou encore la désaturation de l'actuelle ligne à grande vitesse Paris-Lyon. Alors du 3 octobre 2011 au 31 janvier 2012, RFF a proposé au départ 4 scénarios de tracé, un tracé ouest-sud, un tracé ouest, un tracé médian et un tracé est. Alors, diverses études et concertations avec l'ensemble des acteurs et le public ont eu lieu. Et depuis un an maintenant, ne sont retenus que 2 tracés, le tracé ouest et le tracé médian. Alors, RFF essaye tant bien que mal de rechercher des adaptations possibles en région centre pour tenir compte des enjeux environnementaux, agricoles et viticoles. Et nous allons voir ce soir où en sont, en tout cas, les pourparlers actuellement avec nos différents invités. Patrice Martin-Lalande, président du syndicat mixte du pays de Grande-Sologne, député de Loir-et-Cher et premier vice-président du Conseil Général. Hugues Aguetaz, maire de Nouhans-le-Fuselier, président de la communauté de communes Cœur de Sologne et membre du bureau du syndicat mixte du pays de Grande-Sologne. Gérard Monod, membre actif de l'association Sologne Debout. Et enfin, Christian Boulot, président de la communauté de communes du Giennois et maire de Saint-Brisson-sur-Loire. On commence cette première partie avec nos deux premiers invités, Patrice Martin-Lalande et Gérard Monod. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les enjeux environnementaux dont parle RFF, Réseau Ferré de France, concernant un tracé ouest auquel visiblement le pays de Grande-Sologne est farouchement opposé, Patrice Martin-Lalande.
Oui, depuis le départ, depuis janvier 2012, nous avons pris position contre ce tracé-là en raison de ces lourds inconvénients en matière environnementale, mais aussi en matière d'activité touristique, d'activité économique, pour la Sologne et même dans l'intérêt de l'ensemble de la ligne. Une ligne qui devrait traverser la Loire sur l'enceinte, sur le périmètre classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, une ligne qui devrait traverser l'agglomération orléanaise, avec, vous imaginez les dégâts, qui devrait traverser la Sologne, avec qui est le plus grand site Natura 2000 d'Europe, ou le second maintenant, enfin un très grand site Natura 2000, et en Sologne, traversée pas n'importe où, entre la voie ferrée actuelle et l'autoroute, à des endroits où il y a beaucoup d'activités touristiques, par exemple le parc équestre de la Fédération française d'équitation, la troisième fédération sportive de France, le Center Park qui n'est pas loin, le Chalès qui n'est pas loin, le village de Cours-Simon qui n'est pas loin, les activités économiques comme le parc d'activités de la mode, celui de Nouhans, celui de Salbris, la Ferté-Saint-Aubin pas loin non plus, les activités d'armement, hein, la Ferté-Saint-Aubin comme à Salbris, et plus les aspects environnementaux que ne manquerait pas d'avoir ce tracé. Donc nous sommes opposés à cela, d'autant plus que l'autre tracé, le tracé est, ne comporte pas ces inconvénients, parce qu'on ne serait pas dans le périmètre, on ne serait pas dans l'agglomération, et on ne serait pas dans un site premier de France et deuxième d'Europe, Natura 2000.
Alors comment se passent en gros les réunions avec Réseau Ferré de France? Est-ce qu'il faut, tous les arguments que vous avez pu vous avancer concernant ces enjeux environnementaux et humains aussi, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont pris en compte?
Je crois que RFF fait bien son travail, neutre, de manière neutre, comme elle doit le faire, de même que la Commission nationale du débat, qui a bien fait son travail aussi. Tout le monde peut voir en ligne tous les documents, participer, apporter, critiquer. Donc le débat, il est sur la table, clair, ouvert, sans piège, chacun apporte ses arguments. De ce côté-là, je crois qu'il faut s'en féliciter. C'est comme ça qu'un grand projet national doit être sous-pesé, voir les inconvénients, les avantages de telle ou telle chose. J'ai oublié tout à l'heure de dire que le passage en Sologne coûterait 1 milliard de plus de financement aux collectivités, parce que RFF ne peut pas mettre la même somme sur un parcours, celui qui passerait en Sologne, par rapport au parcours Est, ou médian, parce que tout simplement il y a 10 minutes de moins dans le parcours Est, et que naturellement, au point de vue de la possibilité d'utilisation, c'est important. Et donc, il y aurait 1 milliard de plus à trouver au financement des collectivités locales si on passait en Sologne.
Mmh. Est-ce que, selon vous, c'est un argument fort face à RFF? C'est un argument financier qui, quand même, pas diminué d'intérêt.
Tout est important, mais pour les collectivités que nous représentons, c'est important d'avoir 1 milliard de plus à trouver. J'ajoute que pour le Loir-et-Cher, parce que je suis vice-président du Conseil général de Loir-et-Cher, il faut bien que chacun ait en tête que pour la desserte de Blois, qui est notre préfecture, le tracé Est, médian, apporte plus d'avantages, une meilleure desserte que le tracé Sologne, pas tellement pour Paris, où c'est équivalent, mais pour la liaison entre Lyon et Nantes, si je puis dire, et l'océan et l'Atlantique, qui passerait 2 fois par jour, dans chaque sens, à Blois, alors que dans le tracé en Sologne, pour des raisons techniques qui seraient trop longues d'expliquer ici, Blois ne pourrait pas être desservie.
D'accord.
Et donc c'est un paradoxalement, et contrairement à ce qui a été dit souvent, la bonne desserte, la meilleure desserte de la préfecture de Loir-et-Cher et donc du la zone la plus peuplée de Loir-et-Cher, c'est le tracé médian qui l'apporte.
D'accord. Alors, il a quand même fallu, donc tous ces arguments, vous les avez cités, il y a eu une réelle mobilisation quand même des élus, des acteurs locaux.
Oui, on s'en est occupé les uns et les autres, et des associations, et je salue le travail de Sologne Debout, comme du Comité Central Agricole de Sologne, comme Action Dynamique Sologne et d'autres associations, des pétitions ont été faites à la mode Beuvron.
Il y en a d'ailleurs une en ligne.
Le pays de Sologne en a fait une en ligne. Nous avons dépassé les 1200 signataires et il est encore temps d'apporter une signature parce que tout n'est pas réglé. J'insiste là-dessus, tout n'est pas réglé. C'est pas parce que une commission qui a fait un travail que nous respectons a dit que ça pouvait se faire plus tard que ça va pas se faire. Au contraire, la commission a bien acté que la ligne Paris-Orléans-Clermont-Lyon était dans les objectifs qu'il fallait conserver, alors qu'elle a éliminé d'autres objectifs de desserte. Et d'autre part, nous avons besoin rapidement de savoir lequel des deux tracés, Sologne ou médian, ouest, sera retenu. On ne peut pas rester 10 ou 15 ans avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, avec laquelle on ne pourrait pas vendre, on ne pourrait pas acheter, on ne pourrait pas construire, on ne pourrait pas continuer le développement économique, touristique, la protection de l'environnement. Et donc, nous avons besoin d'une décision rapide sur le choix du tracé.
Et alors, cette décision rapide, est-ce qu'il y a un calendrier
Il a été un peu perturbé par pas mal d'événements, y compris le travail de cette commission. Normalement, ça aurait dû être fait au mois de septembre, là, donc dans les jours qui viennent. Je crois que ça va être un peu décalé. Et c'est pas mal aussi que pour une décision aussi importante, on prenne le temps nécessaire à la réflexion, au débat et à la pesée objective des avantages et des inconvénients de chacune des solutions. Donc, je pense qu'on aura une réponse pour la fin de cette année. Et en tout cas, je vais travailler en ce sens, comme parlementaire à l'Assemblée nationale, pour que les choses soient claires, même si ça doit se faire en 2030, éventuellement avant. Il faut que l'on sache dès maintenant quel est le fuseau qui est retenu et sur quel territoire il y a une hypothèque forte dont il faut qu'on tienne compte.
Bien sûr. Alors on va reparler de la mobilisation que vous avez soulignée, notamment avec vous, Gérard Monod, membre actif de l'association Sologne Debout. Expliquez-nous cette association, Gérard.
Alors c'est pas une association, c'est un collectif. Le collectif Sologne Debout. D'accord. Nous, on est un petit peu les derniers de la classe parce qu'on est arrivé après tout le monde. Le pays Grande Sologne se bat sur ce dossier depuis, je crois, plus de 2 ans. Le comité agricole de la Sologne également. Et nous sommes simplement 5 copains de Sologne, habitants en Sologne. Et nous avons été interpellés par ce dossier parce qu'on a constaté qu'un certain nombre de maires de certaines communes, en particulier du Cher, je dois le dire, étaient complètement ignorants de ce problème et s'apprêtaient à laisser traverser leur commune sans même s'en rendre compte.
D'accord.
Donc on a réagi, on était 5, aujourd'hui on est 500. On est très jeunes puisqu'on a commencé notre existence il y a environ 6 mois.
D'accord.
Et on a mobilisé les gens, faisant du porte-à-porte, en collant des affiches, en mettant des tracts dans les boîtes aux lettres. Donc vous voyez, c'est très basique. Et le résultat ne s'est pas
efficace.
Fait attendre.
Oui. Basique mais efficace.
Basique mais efficace parce que d'un seul coup, tous les maires des communes, du Cher en particulier, Donc, se sont rendus compte que leurs habitants découvraient ce projet TGV. Et je vais vous prendre un exemple sur des petites communes, donc Saint-Laurent par exemple, ou Vouzeron, où des lotissements se sont construits. Les gens ont appris avec stupéfaction qu'ils allaient avoir la chance de voir passer un TGV à quelques centaines de mètres de leur maison.
C'est ça, en ouvrant les volets le matin.
Donc,
150 par jour d'ailleurs, voilà. Gérard. 150 par jour au départ et 200 après.
Donc mobilisation générale, réaction immédiate. La plupart des communes concernées ont fait marche arrière. Et je dois dire, nous sommes totalement apolitiques. C'est-à-dire, nous fréquentons des gens de droite, comme monsieur le député, des gens de gauche, comme monsieur le maire de la Motte où nous sommes aujourd'hui. Complètement apolitique, mais je dois dire que malheureusement, il reste quelques hommes politiques qui se battent pour que le projet Sologne continue. Or, nous, nous sommes sensibilisés depuis une petite quinzaine d'années aux problèmes environnementaux. Et aujourd'hui, ça nous paraît stupéfiant de vouloir traverser de cette zone de conservation unique qu'est la Sologne par une ligne grande vitesse, d'autant plus qu'à partir de Salbris et sur toute la partie chère du tracé, la Sologne est coupée carrément en deux. Carrément en deux. Et la forêt de Vierzon, qui est la plus grande forêt domaniale de Sologne, serait coupée carrément en deux.
D'accord.
Comme disait Monsieur Badinter, coupée en deux morceaux. Eh ben, nous, on est contre la peine de mort pour la forêt de Vierzon et contre la peine de mort pour la partie chère de la Sologne.
Bien sûr. En tout cas, ce qui peut effectivement se comprendre. Alors, comment s'est fait justement la rencontre avec notamment Monsieur Martin Lalande pour appuyer justement cette mobilisation
Eh ben, dans les réunions, parce que contrairement à ce qu'on avait fait au début, on ignorait superbement l'existence de Monsieur Martin Lalande. Il nous a mobilisés. On est allé aux réunions qu'il organisait. Nous avons rencontré RFF, qui nous a reçus très chaleureusement, qui nous a permis de nous exprimer. Et nous nous sommes rendus compte, et là c'est deuxième facteur de stupéfaction, c'est que Réseau Ferré de France, qui a mené de très nombreuses études très pointues, opte carrément pour le tracé médian, et tout à fait contre le passage de Sologne, qui soulève énormément de questions nouvelles, de problèmes contentieux à venir. Mais il se trouve des élus qui se battent contre Réseau Ferré de France, qui ont demandé et obtenu une contre-expertise pour réétudier ce passage Sologne. Je dois lire d'ailleurs que cette contre-expertise a eu pour conclusion que le passage en Sologne n'était pas possible. Mais néanmoins, ces élus continuent à se battre pour que ce tracé Sologne se fasse. Ce que je veux dire, il faut savoir une chose, c'est que quand l'autoroute a traversé la Sologne, l'autoroute présente l'avantage, parmi tous ses inconvénients, de desservir de nombreuses communes de Sologne. On prend l'autoroute et on sort en Sologne. Le TGV, si on veut prendre le TGV quand on habite en Sologne, il faut aller soit à Orléans, soit à Bourges. Mais sinon, c'est une coupe franche à travers le pays, sans aucun arrêt, avec la nuisance qu'on sait.
Alors, il y avait justement...
Et Vierzon quand même aussi. Il y aura des arrêts à Vierzon, mais dans les mêmes gares. Et Gérard Menoy a raison d'insister. Il n'y a aucune gare supplémentaire à attendre en Sologne, aucune desserte supplémentaire, c'est-à-dire que ce sont les gares des Aubrais, de Vierzon et de Bourges qui permettront de desservir le territoire, mais rien de plus. C'est là où il est difficile de comprendre quel est l'intérêt de le faire passer en Sologne, puisqu'on ne sera pas mieux desservi pour aller à Paris ou pour aller à Lyon. Dans les deux cas de figure pour la Sologne.
Effectivement. Alors, du coup,
Monsieur
je rebondis.
Député, si je peux me permettre d'être
également
un peu en désaccord avec vous à propos
Bien
de Vierzon.
Bien sûr qu'on a le droit.
Il est vrai qu'à Vierzon, il y aura quelques rames qui s'arrêteront. Mais moi qui prends souvent le train pour monter à Paris, eh bien, je prendrai ces rames à Vierzon. Je roulerai tranquillement à la même vitesse qu'avec le train que je prends aujourd'hui jusqu'à un moment où je pourrai enfin rejoindre la ligne grande vitesse pour aller plus vite pendant combien de temps? Pour gagner combien de temps? Donc, je préfère prendre le train, comme je le fais actuellement, à Salbris, ce qui me fait gagner du temps, plutôt que d'être obligé d'aller à Vierzon pour prendre un TGV qui roulera à la vitesse d'un train normal jusqu'au moment où elle rejoindra enfin la ligne grande vitesse.
Alors, peut-être est-on en droit de se poser la question de savoir pourquoi ouvrir de nouvelles voies qui coûtent excessivement cher, qui posent comme ça un certain nombre de problèmes, on l'aura bien compris, alors qu'on a peut-être un réseau ferré qu'il faut peut-être remettre un peu en état ou en tout cas améliorer, en tout cas avec l'existant peut-être.
Oui. Là-dessus, on peut avoir des avis un peu partagés. Simplement, rappelons quand même qu'il y a un besoin de transport qui est considérable, qui a explosé, qu'il vaut mieux probablement des TGV que des avions supplémentaires, Et que pour aller de Paris à Lyon ou de Paris à Marseille, c'est quand même un progrès de pouvoir y aller en 2 heures pour ce qui est de Lyon, en 3 heures pour ce qui est de Marseille, en train, en partant du centre de Paris, en arrivant à Saint-Charles, à Marseille ou à la gare dans Lyon. Donc tout ça, c'est quand même un progrès. Alors maintenant, est-ce qu'il faut en faire encore plus qu'il y en a ? Il y a un besoin objectif qui demande à être affiné, mais qui est que la ligne Paris-Lyon va être saturée. Elle a tellement de succès, Paris-Lyon, puis après ça Marseille, a tellement de succès qu'il est prévu qu'elle soit saturée. C'est là-dessus que la commission Duron, la commission Mobilité 21, qui a rendu son travail il y a quelques semaines, a dit vérifions à quelle date la saturation interviendra. Dans l'état actuel de nos connaissances, dit la commission, ça peut attendre pour la réalisation du projet de ligne à grande vitesse, ça peut attendre 2030. S'il apparaissait que la saturation est confirmée plus tôt que prévu, nous pourrions un peu anticiper la réalisation de la ligne. Mais en tout cas, la ligne, elle est confortée dans le travail fait par la commission Mobilité 21, qui ne décide pas, mais qui propose. C'est le gouvernement et le Parlement qui décideront des suites à donner dans les mois qui viennent.
Alors sinon, vous aviez évoqué, Gérard Monod, l'autoroute, hein, la 71, qui traverse la Sologne, qui dessert un certain nombre de communes. Est-ce qu'il était possible de faire une sorte de jumelage avec le tracé de l'autoroute et de faire finalement un tracé parallèle au réseau ferré ?
Je vais de prendre la parole pour répondre. C'est l'argument vendeur qui a été utilisé par les hommes politiques qui veulent absolument faire passer le TGV en Sologne.
Donc vous êtes forcément contre, alors.
Pas du tout, ils nous certifient que c'est possible.
Oui.
Et après tout, nous on dormait sur nos deux oreilles parce qu'on se disait, bon, il y a déjà l'autoroute, il y a déjà le TGV, il y a déjà la National 20, la National 20, la voie de chemin de fer, pourquoi pas le TGV encore en plus. Bon. Mais RFF a mené des études extrêmement sérieuses et a démontré que ça n'était absolument pas possible. Il peut y avoir un jumelage très partiel, qui, par contre, impactera des zones industrielles ou des zones commerciales importantes. Mais dès qu'on passe Salbris, c'est une coupe franche. Il n'y a plus de jumelage possible pour une question de rayon de courbure, de vitesse de circulation des TGV, qui ne peuvent pas prendre certains virages, ils sont un petit peu trop serrés. Donc, c'est une vue de l'esprit, ça n'est pas possible. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Réseau Ferré de France.
D'accord, donc une contre-expertise a montré que techniquement, c'était pas faisable.
Exactement, une expertise suivie d'une contre-expertise ont démontré toutes les deux que ça n'était techniquement pas réalisable.
Alors pour toutes les personnes qui écoutent l'émission et qui sont de votre côté, sont contre ce tracé ouest, comment peuvent-ils rejoindre votre mouvement, votre collectif ? Comment peuvent-ils se mobiliser à vos côtés ?
Avant de vous répondre, est-ce que je peux ajouter un tout petit mot ? Parce que je suis pas toujours d'accord avec monsieur le député. Je comprends tout à fait que le TGV est sans doute une chose importante. Mais il y a deux problèmes qui sont distincts. Il y a la liaison Paris-Lyon, qui est certainement capitale, mais il y a aussi la desserte de la région centre. Et nous nous posons la question, est-ce que la région centre ne serait pas mieux desservie si les lignes actuelles, qui sont quand même des lignes remarquables, je vous rappelle que de nombreux records de vitesse ont été battus sur la ligne qui va de Vierzon, grosso modo, à Orléans, parce que cette ligne est très droite, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt pour vraiment que la région centre soit plus ouverte vers l'Île-de-France, que cette ligne soit remise à niveau ? Quand le TGV sera réalisé, est-ce que cette ligne ne sera pas un petit peu abandonnée ? Parce qu'elle aura moins de raison d'être, beaucoup de passagers qui l'empruntent actuellement passant par les lignes grande vitesse. Alors pour répondre à votre question maintenant, comment nous rejoindre ? C'est très simple, nous avons un site qui s'appelle Collectif Sologne Debout. Vous allez sur ce site, vous trouverez toutes les informations. Il est très complet. Vous trouverez toute l'étude Réseau Ferré de France. Et vous pouvez nous rejoindre pour nous aider à lutter contre ce projet qui est complètement démentiel.
Et de votre côté, monsieur Patrice Martin-Lalande, pour signer, en tout cas, la pétition, rejoindre cette mobilisation, comment peut-on faire ?
Allez sur le site du Pays de Grande-Sologne, www.grande-sologne.com. Il faut que nous soyons nombreux à signer cette pétition, il y en a déjà 1200 qui l'ont signée et je les en remercie. Encore une fois, la décision n'est pas prise, elle va être prise avant la fin de l'année, je l'espère. On ne peut pas attendre 2030 pour y voir clair. Et nous avons toutes les bonnes raisons qui ont été rappelées au cours de cette émission et qui vont l'être pour refuser le passage de la ligne grande vitesse en Sologne, qui serait une catastrophe pour la Sologne, un non-sens au point de vue environnemental, mais aussi au point de vue économique, l'emploi et la vie de tous les jours.
Et donc, ce sera l'occasion d'en parler dans cette deuxième partie d'émission avec notamment Hugues Aguetaz et Christian Boulot. Merci beaucoup, messieurs.
Merci.
18h30, 19h, le magazine Éco-Innovation en Grande-Sologne sur Méga FM.
Suite de l'émission La Sologne, terre d'identité et de qualité, je vous le rappelle, avec en sujet ce soir la ligne grande vitesse. Alors, on a vu dans la première partie de cette émission avec monsieur Patrice Martin-Lalande et Gérard Monod un petit peu le positionnement de La Sologne, donc en faveur plutôt d'un tracé médian et alors en défavorable en tout cas au tracé ouest. On va faire un petit peu le point avec nos deux autres invités, Hugues Aguetaz, maire de Nouhans-le-Fuselier, président de la communauté de communes Cœur de Sologne et membre du bureau du syndicat mixte du pays de Grande-Sologne, ainsi que Christian Boulot, président de la communauté des communes du Giennois et maire de Saint-Brisson-sur-Loire. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je me tourne vers vous, Hugues Aguetaz, maire de Nouhans-le-Fuselier, également défavorable au tracé ouest, je présume.
Oui, absolument, pour des raisons d'ailleurs objectives. Un territoire de 35 000 hectares, mais de 20 km de long, donc impacté lourdement par la construction de cette ligne. On subit déjà une séparation du territoire par l'autoroute et par la voie de chemin de fer. Une séparation supplémentaire viendrait encore apporter des nuisances incontestables à la fois à la faune et à notre économie.
Alors justement, on a évoqué toutes les implications, les impacts environnementaux, mais en termes d'impact économique, quel serait-il justement?
En termes d'impact économique, en dehors du fait de couper le territoire en deux, il ne faut pas oublier que nous sommes une commune touristique et centre de rencontre de génération. Il y a des lits. Il y a le village vacances de Courcimont, il y a 200 lits, il y a le domaine de Chalais, il y a 400 lits. On fait dans ces établissements-là 50 000, 100 000 nuitées annuelles. Et donc pour nous, l'impact est indéniable, si vous voulez, au niveau non seulement des rentrées grâce à la taxe de séjour, mais aussi au niveau des emplois que ces gens-là utilisent.
Parce que là, le tracé couperait complètement
notre territoire, donc avec un impact y compris sur la zone industrielle des Louettières, ou quand même sur Nouhans-le-Fuselier, il y a eu un millier d'emplois, et donc un impact sur nos entreprises, ben c'est incontestable, on est pourvoyeur d'emplois, on le deviendrait moins.
Bien sûr. Alors vous, en tant que maire de Nouhans-le-Fuselier, votre mobilisation, elle se passe de quelle manière?
Ben, elle se passe en se levant tôt le matin, madame, en travaillant beaucoup et en étant attentif à tous les besoins des Nouhannais et du territoire. Ouais. Voilà comment ça se passe.
Ça se passe comme ça.
Oui.
Et justement, les habitants que vous représentez, leur mobilisation à eux, enfin quand ils ont eu écho de ce projet.
Il y a une opposition fondamentale, et je pense qu'ils me font confiance pour les défendre. Ça fait 3 réélections, donc je pense qu'ils ont confiance en moi.
Alors, je me tourne maintenant vers notre invité suivant. Christian Boulot, donc président de la communauté de communes du Giennois et maire de Saint-Brisson-sur-Loire. Alors vous feriez partie du tracé médian, en fait, géographiquement parlant, déjà dans un premier temps.
Absolument, oui. Donc nous militons, c'est là où nous rejoignons avec mon collègue maire de Nouhans, nous militons pour le tracé médian parce que pour nous, on est à 150 km de Paris. Peut-être pour retracer où nous sommes, la côté de commune giennoise, donc ça recouvre le canton de Gien, 29 000 habitants, 11 communes, 150 km de Paris. Donc nous, notre intérêt, c'est que le TGV passe, la ligne passe par le Giennois, d'abord pour des raisons simplement économiques, c'est le tracé le plus direct sur l'ensemble de tous les tracés, c'est aussi le plus écologique, c'est celui qui impacte moins, et c'est là où on se rejoint avec mon collègue, c'est qu'on ne touche pas la Sologne sur le tracé médian, c'est aussi un tracé qui n'est pas destructeur d'espace agricole, puisque on est sur la ligne historique Paris-Lyon. On pourrait aussi, nous, sur ce tracé médian, utiliser des infrastructures existantes. Donc là aussi, des économies substantielles, bien évidemment. Et puis, un dernier point, nous, ça nous permettrait de désenclaver notre territoire du Giennois, puisque vous savez que nous sommes à l'extrême de la région centre, du Loiret. Et donc, notre métropole orléanaise est très loin de nous. Mmh. Et donc, nous, on aurait tout intérêt, effectivement, à avoir le tracé médian sur le Giennois, bien évidemment.
Et y aurait-il une desserte sur J1 par
Alors oui, tout à fait, oui. Donc, nous avons participé au cahier d'acteurs. Et d'ailleurs, vous posiez la question à mon collègue tout à l'heure, comment ils ont agi pour rentrer dans ce débat. Eh bien, nous avons, la communauté de communes du Giennois a pris une délibération il y a quelques mois déjà de ça, pour se porter favorable au tracé médian, en expliquant ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le désenclavement du territoire. 150 kilomètres de Paris, on pourrait estimer avoir une gare, une desserte. Donc voilà, on a des intérêts convergents pour des motifs différents, mais on a des intérêts convergents avec la Sologne.
Alors, ceci dit, quand même, il y a quand même un impact, malgré tout, en termes, par rapport aux travaux, qui risquent d'être assez monumentaux, quand même. Quels sont-ils, ces impacts? Ça ne se fait pas comme ça, non plus, en claquant des doigts.
Non, absolument, mais vous savez, l'aménagement du territoire, ça nécessite effectivement beaucoup de très gros travaux, mais c'est aussi générateur, mon collègue l'a dit, d'emploi, d'attractivité de territoire. Donc voilà, je dirais que il faut passer par des grands travaux pour arriver à améliorer les dessertes des territoires, le désenclavement et puis aussi l'économie locale.
Et de réhabiliter certaines lignes déjà existantes, est-ce que ça aurait été quelque chose de l'ordre du possible, qui aurait peut-être évité aussi ce grand débat de lignes à grande vitesse?
Sur le tracé historique Paris-Lyon, il y a des possibilités. On a eu des entretiens avec RFF qui effectivement pourraient récupérer un certain nombre de tronçons, réaméliorer l'existant. Donc là aussi, c'est une source d'économie, une source de moins de nuisances pour les territoires et pour les administrés. Pour nous, on y voit que des avantages, bien évidemment.
Bien sûr.
Mes collègues orléanais ne sont pas tout à fait de mon avis.
Et il faut toujours un pour et un contre. C'est la problématique d'un débat. Alors, dans les réunions, justement, avec RFF, est-ce que vous arrivez à vous regrouper, du coup, puisque, du côté de la Sologne, on est contre le tracé ouest, mais pour le tracé médian. Vous, du côté du Giennois, on est pour le tracé médian. Pas les mêmes motivations, mais en tout cas, le même résultat. Est-ce que vous êtes ensemble, armés, face à RFF?
Oui, je pense que oui. On est écoutés, on est reçus, nos arguments ont été reçus avec un esprit positif. Je pense que le dialogue s'est établi. Je voudrais quand même rajouter quelque chose, parce qu'en plus d'être maire, je suis aussi président de Cœur de Sologne. Et Cœur de Sologne, à Chaumont-sur-Tarronne, il y a Center Park, qui serait aussi impacté. C'est 1 400 000 nuitées, 1 200 000 nuitées en ce moment. Ce n'est pas négligeable. Il y a la Fédération française d'équitation qui a son siège avec ses manifestations. C'est des retombées économiques de plusieurs millions d'euros. Tout cela, et il y a aussi une zone industrielle qui serait impactée. Donc tout cela, si vous voulez, ce sont des arguments qui ont été reçus. Ce ne sont pas des arguments politiques que nous avons, ce sont des arguments objectifs.
Bien sûr.
Donc l'objectivité étant une chose bien partagée par les humains, à mon sens, et normalement, donc nous devrions aboutir dans le sens que nous souhaitons.
Bien sûr. Et puis l'impact financier également, il semblerait que sur en termes de coûts d'aménagement de cette ligne à grande vitesse, c'est quoi? C'est de l'ordre de à peu près 15 milliards, d'euros d'investissement. Une partie prise par RFF, le reste par les collectivités finalement.
C'est ça. C'est d'ailleurs tout l'enjeu, puisque un certain nombre de grandes collectivités que je citerai pas là pèsent sur le dossier parce qu'ils ont plus de pouvoir que, par exemple, le territoire du Nord ou la Sologne. Là aussi, je crois qu'à l'heure où il faut absolument faire des économies et repenser un petit peu tous nos financements territoriaux, il faut dépasser les influences politiques, les influences d'élus, de ci, de là. Je crois que ce qui est important, c'est de voir l'intérêt du territoire et l'intérêt économique du projet, et non pas faire un crochet comme on a déjà vu par le passé pour faire plaisir à tel ou tel élu. Voilà, je dis simplement ça. Je crois qu'il faut que l'intérêt général passe avant les intérêts particuliers, je crois.
Alors, prochaine réunion, est-ce qu'il y a une date où vous allez pouvoir rencontrer RFF? Non, pas véritablement.
Non, mais vous savez comme moi que le projet est en train de rentrer dans un tiroir qui sera peut-être ouvert plus tard. En tout cas, nous, on aura pris position pour le devenir.
Voilà, et puis surtout pouvoir répondre aux demandes, notamment des habitants. Est-ce que on va devoir déménager? Est-ce que je peux acheter ce bien ou pas?
Absolument.
Le revendre? Enfin, c'est quand même des questions importantes.
Non, mais on voit bien que ça effectivement, les menaces pour nos territoires s'éloignent largement. Mais je pense qu'il faut continuer à rester mobilisé. Je pense qu'il faut continuer à se rencontrer. Nous, on se rencontre beaucoup aussi avec nos collègues de la Nièvre, puisqu'ils seraient sur ce tracé-là, Nevers, La Charité. Je crois qu'il faut qu'on continue à rester mobilisé et vigilant sur l'avenir pour défendre encore notre position.
Donc, en gros, une mise entre parenthèses n'est pas une clôture de dossier. On est bien d'accord que ça reste, de toute façon, quelque chose qui est il faut
tout
rester mobilisé, vous l'avez
tout
dit.
À fait.
Alors, en termes de mobilisation, Monsieur Aguetaz et Monsieur Boulot, pour déjà être mobilisé, on peut vous contacter, les collectivités, les numéros de téléphone sont accessibles, je suppose.
Absolument, oui.
Oui, Internet, nos sites, tout est possible pour nous contacter.
Et alors, donc, si on a bien compris que d'un côté, le tracé ouest, donc par rapport à la Sologne, c'est impact trop fort, en tout cas environnemental, économiquement. C'est une perte, on l'aura bien compris.
C'est un danger, en tout cas.
C'est un grand danger.
Il est certain que c'est un danger important. Notre position, si vous voulez, c'est plutôt pour sauvegarder notre territoire, sauvegarder notre économie et faire en sorte, justement, que les choses continuent telles qu'elles sont et elles ne soient pas entachées à cause de cette ligne qui viendrait se construire et nous séparer, nous couper en deux, ou éventuellement impacter fortement des territoires qui, économiquement, sont importants par leur activité, leurs ressources.
Bien sûr. Voilà. Et alors, de l'autre côté, de votre côté à vous, Christian Boulot, complètement favorable au tracé médian parce que, justement, un impact économique, mais positif cette fois.
Absolument. Nous, le fait de militer pour ce tracé médian nous permettrait de désenclaver notre territoire, de développer notre économie. Nous venons de créer une zone industrielle de 60 hectares. Nous avons la A77 qui passe maintenant. Donc, à 150 km de Paris, on pourrait facilement envisager soit une gare comme il se passe ailleurs ou bien un centre technique qui serait générateur d'emploi et d'attractivité du territoire pour nos entreprises qui aujourd'hui souffrent un peu de cet enclavement. Donc tout à fait positif dans notre démarche par rapport au tracé médian.
Donc une stratégie, on va dire, de votre côté, Hugues Aguetaz, plutôt conservatrice en fait, de votre côté, Christian Boulot, côté un peu offensif en
tout
fait,
à fait.
Où finalement
oui.
c'est le côté positif qui prévaut.
Absolument.
Une opposition forte, formelle du tracé ouest, et eux, mon collègue, défend une position formelle pour le tracé médian.
Donc on peut quand même espérer qu'avec tous ces arguments finalement qui se rejoignent, le réseau ferré de France soit finalement sensible à ces différents arguments.
Nous espérons effectivement pour nos administrés les uns et les autres.
Donc en attendant d'avoir une réponse ferme et définitive, il faudra encore attendre un petit peu, donc il s'agit quand même de continuer à se mobiliser. Merci messieurs d'avoir consacré un petit peu de temps sur ce sujet quand même important, Hugues Aguetaz et Christian Boulot. Sachez que vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission sur notre site www.megafm.fr ainsi que sur le site du syndicat mixte du pays de Grande-Sologne.
Excellente
soirée. Merci à vous de nous donner la parole.
Excellente soirée à vous sur Mega FM.
C'était La Sologne, terre d'identité et de qualité, le magazine éco-innovation en Grande-Sologne de Mega FM.